connaissance aussi avec Christina. À toi la parole.
OK, merci. Allô? C'est un peu une... Je suis nerveuse. David nous a demandé, à nous et aux deux autres, de présenter pourquoi on s'est appelé à la mission. Fait que je pensais à ça cette semaine. J'en ai parlé un petit peu avec David aussi cette semaine. Puis, quand je repense à mon appel missionnaire, ça se fait depuis plusieurs années, je pense. Puis, j'essaie de souvenir cette semaine d'où est-ce que c'est parti. Je pense que mon appel missionnaire s'est fait sur un long processus de plusieurs années, mais qui a abouti à un point culminant, finalement, il y a de ça 7 ans, en 2004. Je me souviens, quand j'étais au primaire, j'allais à l'école d'eau vive, puis un jour, je me souviens plus qui, un missionnaire était venu nous présenter un témoignage à l'école. On était toutes dans la nef, toutes les primaires, puis il nous montrait des photos. Puis là, je me souviens, il nous avait montré sa maison, c'est une espèce de hotte en paille. Puis là, près de lui, il y avait une espèce de marécage qui avait pris des photos de crocodiles. Puis là, tu sais, il parlait comment c'était un peu la sécurité, puis comment c'était difficile là où il habitait, puis j'étais là. Puis on entendait tout ça, puis je me souviens dans mon cœur, quelqu'un me dit, comme si Dieu me disait, ha, 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 un jour ça va être toi, un jour ça va être toi. Puis ça me faisait peur, tu sais, je sais pas si vous avez déjà senti être à l'école, puis le professeur va dire, bon, ben aujourd'hui, je pose une question, puis je vais piger une personne dans la classe qui va venir en avant, puis dire la réponse, puis comment vous dites, oh non, je trouve ça va être moi, je trouve ça va être moi, puis ce stress-là de dire, ah, oh, je trouve que c'est le prof qui va me choisir, puis ça ne tente pas, mais je me sentais comme ça. Devant ce missionnaire-là, je chantais comme si Dieu me disait, plus tard, tu vas être un peu comme ça, puis ça me faisait très peur. Pendant mon adolescence, à l'église, j'ai eu la chance de participer dans plusieurs voyages missionnaires. Je pense que j'ai été bénie d'avoir plusieurs des personnes influentes dans ma vie. Entre autres, il y avait Jeff Street, pour certains, vous le connaissez, qui était venu, qui a été pasteur de jeunesse ici quelques années, et avec qui j'ai pu participer dans quelques voyages. Et puis, ces voyages-là m'ont beaucoup transformé tranquillement. Ils m'ont beaucoup servi à, premièrement, à avoir plus une meilleure relation avec Dieu, parce que je pense pas que j'en avais. J'ai oublié de le dire, mais je pense qu'à l'âge de 7 ans, pas je pense, je sais, à l'âge de 7 ans, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur avec mon père, mais la relation avec Dieu, ça ne vient pas tout de suite, ça s'acquiert. Puis ces voyages-là m'ont permis d'avoir une relation avec Dieu en m'aidant à faire un culte personnel, en priant. Je voyais Dieu agir aussi autour de moi, puis c'est la première fois que je voyais vraiment Dieu agir. Et aussi, je pouvais voir que moi aussi, je pouvais me rendre utile dans... Peu importe ce qu'on faisait, je voyais que Dieu m'utilisait. Donc, tous ces voyages-là m'ont appris à reconnaître ces choses-là autour de moi. Et puis, je me souviens encore, plusieurs fois, Jeff priait, puis il disait, soit pendant les voyages, soit ici à l'église, il disait, il y avait plusieurs jeunes devant lui, puis il priait, puis il disait au Seigneur qu'il espérait que plusieurs des jeunes devant lui deviendraient eux aussi missionnaires. Et encore une fois, ce sentiment-là dans mon cœur de dire, « Oh non, Jeff, t'es en train de prier ça, que plusieurs vont devenir missionnaires, je suis sûre que ça va être moi, tu sais. » Puis ça me faisait peur, puis j'étais comme, « Oh non, c'est sûr, sa prière va être exaucée, tu sais. » Puis ça me faisait peur, mais je sentais encore une fois comme si Dieu, il pointait, il disait, « Tu sais, il prie, là, mais ça va être toi, tu sais. » Puis ça me faisait vraiment peur. Parce que ça me faisait peur, parce que moi, dans ce temps-là, ma vision d'un missionnaire, c'était « t'es pauvre toute ta vie, tu te fais bouffer par les bibites, puis tu meurs à 35 ans parce que t'es tombé dans le ravin ou je sais pas trop, tu sais. » C'était ça ma vision du missionnaire. C'était pas ça qu'une vie que je voulais. Moi, je pensais que le but de la vie d'un croyant, c'était « ben, t'es jeune, tu vas à l'école, tu fais du mieux que tu peux. Après ça, tu vas le plus loin que tu peux à l'école, parce qu'après ça, tu veux un super de bon job pour se faire beaucoup d'argent. Puis après ça, avec beaucoup d'argent, tu t'achètes une grosse maison. Puis, hey, c'est ça, là, tu sais, qui avait l'air le plus hot dans ce temps-là. Puis une grosse auto. Puis après ça, ben là, t'es croyant, fait qu'il faut bien que tu ailles à l'église le dimanche. Puis, tu sais, c'est un talent, ben tu sais, ou c'est un don, ben tu fais un ministère quelconque, mais c'est ça le but de la vie. Fait que pour moi, là, me faire manger par des bibites, ça me tentait pas. Fait que la mission me faisait peur. J'avais une mauvaise vision de ce que c'était et j'avais une mauvaise vision aussi de ce que c'était le but de la vie d'un croyant. Et jusqu'à ce qu'en 2004, après mon secondaire 5, j'ai décidé d'aller à une école biblique avec Marie-Odile, entre autres. Et au Brésil, là où on est allé, c'était une école biblique, mais c'était un institut de formation missionnaire. On savait bien que c'était ça le nom, mais ça n'avait pas cliqué dans ma tête. Puis tout le monde qui était là, qui étudiait là, ils voulaient tous devenir missionnaires, sauf moi puis Cocotte. Nous, on voulait apprendre sur la Bible, puis faire une année biblique comme tout le monde. Puis... Fait que ça a beaucoup travaillé dans mon cœur cette année-là, constamment. J'avais des rencontres hebdomadaires avec une femme qui me parlait beaucoup de la mission, bien entendu, mais qui me parlait surtout, c'est quoi le but de la vie pour toi? Puis pourquoi tu es sur la terre? Puis qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Ça m'a beaucoup... Puis pourquoi tu veux tant une grosse maison, puis la grosse job, puis le poule d'argent? C'est quoi finalement que ça va te donner? T'sais? Puis ça m'a beaucoup remis en question. Finalement, si je peux résumer mon année biblique, oui, j'ai eu des connaissances bibliques, oui, j'ai acquis des, en tout cas, certaines connaissances, mais je me souviens qu'à la fin de l'année, je m'étais fait une espèce de résumé dans ma tête des trois choses qui m'avaient le plus marquée ou que j'avais vraiment apprises cette année-là. Puis je veux vraiment vous les dire parce que c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui et pourquoi que je suis devant vous aujourd'hui. Je vais les lire parce que je trouve ça important. La première chose que j'ai appris, c'était que Dieu m'a créé. Ça a l'air simple, mais si je suis ici, c'est parce que c'est lui qui m'a créé, qui m'a mis sur la terre. Il est la raison pour laquelle je suis sur la terre. Il a donc un plan précis pour moi. Il m'a fabriqué, il m'a fait pour un but précis. Il a le meilleur plan pour ma vie. Il me connaît par cœur, il me connaît mieux que moi-même, parce que c'est lui qui m'a tricoté. Moi, je pense que je me connais, mais c'est Dieu qui m'a fait depuis tant d'années, qui me voit aller et qui sait mon futur, mon présent. Il me connaît beaucoup mieux que moi-même. Et donc, je pense que je peux lui faire confiance avec ma vie. Et je peux lui faire confiance que le plan qu'il a pour moi est meilleur que le plan que moi, je peux me faire pour ma vie. Ça, c'est le 1. Numéro 2, c'est qu'à cause de mes péchés, ben, j'étais perdue. Je devais mourir. C'est la conséquence du péché, c'est la mort. Mais Dieu, il avait tellement investi en moi qu'il ne voulait pas me laisser mourir comme ça. Donc, il a décidé de sacrifier son propre fils qui a pris ma mort. C'est lui qui est mort à ma place. Pour que moi, je puisse vivre et que je puisse continuer à faire ce à quoi il m'avait créé à faire. Donc, ça m'a fait réaliser que je dois tout à Dieu. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui a voulu. Il a pris ma place, il a pris ma mort. Donc, je vis, donc je dois vivre pour lui. C'est tout plus simple, aussi simple que ça. Donc, je lui dois la vie. Si je suis en vie, c'est à cause de lui. Donc, je lui dois ma vie. Et la troisième chose que cette année-là m'a apprise, c'est que maintenant que j'ai la vie éternelle, parce que Christ est mort pour moi, j'ai ce don-là, c'est un gros cadeau, je peux pas rester et pas en parler aux autres. Ça serait égoïste de ma part. Parce que je sais que tout le monde a l'opportunité d'avoir la vie éternelle. Tout le monde a l'opportunité de faire ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Mais si j'en parlais à personne, personne n'aurait, il y aurait juste moi. Ça se pourrait pas, ça se fait pas. Pour moi, c'était vraiment, à ce moment-là, le but de ma vie devenait finalement à connaître Dieu comme mon sauveur. Lui ressembler dans ma vie personnelle, de me sanctifier de plus en plus, puis finalement d'annoncer ce beau cadeau-là aux autres autour de moi. C'est pour ça que je suis là, je pense. Durant cette année-là, j'ai dû lire la Bible. C'était pour ça que je suis là. Puis, il y a un texte qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est Romains 10, 13 à 15. Je vais vous le lire. Ça dit, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » C'est simple. Toute personne qui fera appel à son nom sera sauvée. Mais après ça, il dit, « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Je me disais, oui, c'est tellement simple, le salut, mais s'il n'y a personne qui en parle, qui sera sauvé? Puis s'il n'y a personne qui sera envoyé, personne ne sera sauvé. Ça m'a tellement marqué, ce verset-là, puis je chantais Dieu dire, Christian, j'ai besoin, pas que j'ai besoin de toi, mais je veux me servir de toi pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. À partir de ce moment-là, j'ai senti que mon appel était clair, puis j'avais plus peur de la mission. Pour moi, ça me faisait plus peur du tout, puis je sentais que j'en voulais plus de la vie que je voulais avant. Je sentais que la meilleure vie pour moi, c'était de faire ce que Dieu m'a dirigé à faire. On m'a conseillé par la suite de pas seulement continuer ma formation missionnaire, mais d'avoir une formation académique séculière. C'est pour ça qu'après, à mon retour du Brésil, j'étais au cégep. Puis, je termine un baccalauréat en pratique sage-femme en juin. Parce que je pense qu'en tant que sage-femme, je pourrais peut-être être utile ailleurs. Ou ici, je ne sais pas. Mon plan, jusqu'à maintenant, c'est de terminer mon bac. Si Dieu le veut, ça va être en juin de cette année. Ensuite, je planifie payer mes dettes parce qu'en étudiant à l'université, tu accumules des dettes. Je veux les payer le plus rapidement possible pour pouvoir vraiment être libérée par la suite puis faire ce que Dieu voudra. Puis ensuite, bien, investir mon temps où Dieu me voudra pour le servir. Puis, je vous présente ça aujourd'hui pour vous demander de prier pour moi. J'ai aucune idée de qu'est-ce que Dieu va faire avec moi plus tard, où je serai, où je vais travailler. Mais je demande de prier puis ensemble qu'on puisse former une équipe pour que je puisse annoncer ce beau cadeau aux autres. Merci.